Vous écoutez, on lit pour vous.
Les poules sont toujours en cage. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 13 avril 2026 dans La Presse. La chaîne de déjeuner Cora avait annoncé son intention en 2016 de servir uniquement des œufs provenant de poules en liberté. 10 ans plus tard, ce n'est pas le cas. Cora n'est pas la seule chaîne de restaurants qui n'utilise pas des œufs pondus par des poules en liberté. Mais son changement de cap a été remarqué par l'organisme Mercy for Animals, qui dénonce non seulement le fait que Cora n'a pas tenu son engagement initial, mais aussi le fait qu'elle ait modifié en douce sa promesse. Alors qu'on disait en 2016 que tous les œufs servis proviendraient de poules en liberté au plus tard en 2025, Cora indique désormais que, d'ici 2029, ils proviendront de poules en liberté ou qui vivent dans des cages enrichies. Les représentants de Cora n'ont pas voulu accorder d'entrevue à La Presse pour cet article, mais ont tout de même envoyé un court message. Comme plusieurs restaurateurs québécois, nous avons dû, au cours des dernières années, ajuster certains de nos échéanciers pour tenir compte de la réalité commerciale. Peut-on y lire? Le Frier, Allô mon coco et Ben et Florentine n'utilisent pas d'œufs pondus par des poules en liberté, mais ces deux dernières chaînes, membres du groupe MTY, travaillent déjà avec des fournisseurs dont les cages sont aménagées ou enrichies. On entend encore parler du bien-être animal. C'est un sujet qui est important pour nous et pour nos clients, et ça ne se limite pas qu'aux œufs, précise Éric Lefebvre, PDG du groupe MTY. Un pas vers le bien-être. On peut donc distinguer les deux types d'élevage de poules pondeuses, avec ou sans cage. Les poules qui vivent sans cage ont plus d'espace dans leur poulailler, peu importe les nuances dans la production. Certaines ont accès à l'extérieur. C'est le cas des poules élevées en production biologique qui vont dehors selon les saisons. Celles qui vivent en cage ne verront jamais le soleil. Toutefois, il y a de grosses différences à l'intérieur même de ces types d'élevage, explique Nabil Ananhahas. Les cages enrichies ont des aménagements perçus comme meilleurs pour le bien-être des poules, explique le professeur des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Ces cages, plus grandes, possèdent des perchoirs et des ondes de grattage qui permettent aux oiseaux d'exprimer leur comportement naturel en plus d'espaces de nid pour pondre. Les cages régulières ou conventionnelles sont de plus petite taille. C'est sous-optimal au point de vue du bien-être animal, précise le professeur, en raison de la restriction de l'espace disponible par poule. Selon Nabil Halnahas, les consommateurs sont conscients des actions posées pour le bien-être animal et certains réclament ces améliorations des producteurs. Ça a mené l'industrie avicole à passer des cages conventionnelles aux cages enrichies, dit le professeur, qui estime que le consommateur qui opte pour les œufs pondus dans ces cages enrichies fait un pas dans la direction du bien-être animal. On essaie de sortir le mot « cage » pour parler davantage de « logements enrichis », précise Sylvain Lapierre, président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Et dans notre jargon, on parle d'unité de logement. Mais les consommateurs sont-ils prêts à payer plus cher leurs œufs selon le type d'élevage? Le consommateur qui est engagé accepte de payer un prix plus élevé, affirme Dabil Alnahas, qui dit toutefois que oui, le contexte économique actuel influence les tendances de consommation à la maison comme au restaurant. Il n'y a rien qui ressemble plus à une douzaine d'œufs blancs de poules en liberté qu'une douzaine d'œufs blancs standards, lance Sylvain Lapierre. Selon lui, certains consommateurs ont fait des choix selon leur budget dans les deux dernières années, mais la catégorie des poules en liberté est toujours en croissance au Québec. Une croissance moins rapide qu'avant, mais une croissance. Toutefois, Sylvain Lapierre espère que les situations comme celle de Cora ne se multiplieront pas. Dans le système de gestion de l'offre, les producteurs répondent aux demandes de l'industrie. On ne veut pas que des compagnies s'engagent pour la poule en liberté et 2 ou 3 ans plus tard changent d'idée, dit-il. Un producteur qui change son vieux poulailler pour un système en liberté fait ce changement-là pour 20 ans. Dans son communiqué dénonçant l'attitude de Cora, le groupe Mercy for Animals précise que l'approvisionnement en œufs de poules en liberté est possible et cite en exemple le géant McDonald's qui le fait ici. Est-ce devenu l'exception? Dans un monde où les restaurants cherchent à livrer les plats à un bas prix, l'attrait pour le type d'élevage de la poule perd-il de l'intérêt? Dans un message envoyé à la presse, Jessica Borson de Mercy for Animals réfute la thèse selon laquelle le mode d'élevage de l'oiseau est moins au cœur des préoccupations des consommateurs qui vont déjeuner au restaurant. Les Canadiens demeurent massivement opposés aux cages, écrit-elle, s'appuyant sur un sondage de 2023. Selon elle, le modèle fonctionne car, en plus de McDonald's, Boston Pizza, Starbucks, Wendy's et A&W offrent des plats qui contiennent des œufs 100% sans cage au Canada. En savoir plus. Source, baromètre de la consommation responsable, le SG UCAB 2025. 58%. L'intérêt pour la protection des animaux est en hausse chez les consommateurs québécois, passant de 52% qui disaient s'en préoccuper en 2010 à 58% en 2025. Source, Fédération des producteurs d'œufs du Québec. 36%. Il ne reste plus que le quart des poulaillers du Québec qui sont équipés de cages conventionnelles, 26%, alors que plus de 36% produisent des poules en liberté. Les nouveaux logements enrichis sont présents dans 38% des poulaillers québécois. 10 ans. Tous les poulaillers du Québec seront convertis avec les nouveaux aménagements ou passeront aux 100 cages d'ici 2036. C'était « Les poules sont toujours en cage », un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 13 avril 2026 dans « La presse ».
Chronique coaching, accepter l'inacceptable. Un texte de Véronique Pagé, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad. Chers lecteurs et chères lectrices, alors que je referme mon ordinateur après une discussion avec une amie, je ressens l'envie de partager avec vous mes réflexions. Cette amie incarne pour moi la force et la résilience. Elle mène de front sa vie d'entrepreneur, s'engage pleinement pour le bien-être de ses enfants et ne ménage pas ses efforts pour qu'il ne manque de rien. Elle est maman monoparentale de 2 enfants qui ont une limitation. Jamais je ne l'ai entendue se plaindre. Au contraire, elle cherche toujours à trouver des solutions, à voir le positif, quelles que soient les circonstances. J'éprouve pour elle une profonde admiration. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose a changé dans son regard. Après avoir échangé sur le quotidien, les défis rencontrés et la façon dont elle a traversé les dernières vacances avec ses enfants, des vacances qui, pour elle, n'en étaient pas vraiment, elle m'a posé une question qui venait vraiment de son cœur. Véronique, comment on fait pour accepter? Durant les derniers mois, le mot « acceptation » a fait partie de mon univers et je l'ai regardé sous différents angles. Autant dans ma vie personnelle que pour les clients que j'accompagne. Je me suis fait un peu surprendre à me dire intérieurement que je n'avais pas envie tous les jours d'accepter ce qui m'arrivait. Après 49 ans, à cohabiter avec ma limitation, les nouveaux défis étaient plus difficiles à accepter. Il arrive parfois qu'on me demande si j'ai accepté ma condition. Je réponds souvent que j'ai plutôt appris à vivre avec. J'ai appris à m'adapter, à vivre les contraintes, à trouver des alternatives pour me rendre dans des endroits inaccessibles. J'aime bien dire que lorsqu'on vit avec une limitation, on devient des champions de l'adaptation. Dans la dernière année, j'ai apprivoisé une nouvelle douleur, ce qui fait que la marche était de plus en plus difficile. Je devais m'adapter à une nouvelle réalité que je croyais temporaire, devenue maintenant permanente. L'utilisation du fauteuil roulant est maintenant nécessaire pour me permettre de rester active. Un processus et non une finalité. Ce processus d'adaptation, traversé au cours des dernières années, a transformé ma façon d'accompagner les autres. Je ne considère plus l'acceptation comme une destination à atteindre pour se sentir mieux, mais plutôt comme un chemin à parcourir et à explorer. Pour moi, l'acceptation devient une expérience qui évolue, une découverte de soi et de ses limites. La question de l'acceptation ne devrait même pas se poser. Se demander « Est-ce que je dois tout accepter ?» m'amène toujours à la même réponse. Il est permis de ne pas tout accepter. Et si le premier pas était d'accepter que je n'accepte pas? S'autoriser à ne pas tout accepter, c'est s'offrir une forme de liberté et de légèreté, en réduisant la lutte intérieure et la résistance. Je crois qu'il est essentiel de reconnaître que l'acceptation peut varier. Certains jours, elle vient plus facilement. D'autres fois, elle est plus difficile. Ce chemin consiste à se permettre de nommer ses difficultés, mais aussi à ressentir les moments où l'on va mieux. Curieusement, dans les mots « j'accepte de ne pas accepter », je retrouve une forme d'acceptation. Comme si l'inacceptable était moins difficile à entrevoir lorsqu'on est dans la vérité. En y pensant bien, croyez-vous qu'il soit possible d'accepter réellement de vivre du jour au lendemain avec une maladie incurable ou d'accepter que notre enfant soit malade ou différent? Je ne pense pas. Je pense plutôt que la véritable acceptation réside dans la vérité de ce qu'on vit, dans les jours pénibles, dans les émotions difficiles, dans les doutes et dans ce qui est profondément impossible à accepter. C'est là toute la force et la volonté, celle où on arrive à se dire honnêtement « J'ai le droit de ne pas tout accepter à chaque moment ». C'est sûrement l'apprentissage que l'on doit accepter, car le chemin devant nous sera toujours à découvrir. Et si je me donnais totalement le droit d'être imparfaite, en colère certaines journées et d'autres, fière de moi? C'est peut-être ça, le chemin de la véritable liberté. C'était « Accepter l'inacceptable », un texte de Véronique Pagé, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad.
Pourquoi il est important de porter plainte? le cas de M. Arnaldo Romero Garcia, un texte d'Adèle Liliane Gomben-Gnoc, organisatrice communautaire au volet Défense des droits, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad. L'équipe de défense des droits de Mémo Québec observe souvent l'hésitation des membres à porter plainte dans les dossiers qui les concernent, que ce soit dans le système de santé, le logement ou même le transport adapté. Pourtant, il est très important de le faire. Prenons l'exemple de M. Arnaldo Romero Garcia, membre de Mémo Québec, qui a contracté une plaie de pression à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont en novembre 2024, où il avait passé près de 48 heures couché sur une civière dure sans être retourné. Un an plus tard, sa plaie est toujours là et ne montre aucun signe d'amélioration. M. Romero Garcia subira une intervention chirurgicale pour cette plaie dans les prochains mois. Lorsqu'il nous a raconté son histoire, nous étions révoltés, préoccupés, inquiets et même tristes que le système de santé n'ait pas tiré des leçons du cas de Normand Meunier, qui avait, lui aussi, développé une plaie de pression à l'urgence de l'hôpital de Saint-Jérôme dans des circonstances semblables. Suivant notre recommandation, M. Romero Garcia a accepté de porter plainte. Nous avons rédigé une lettre relatant tout ce qui s'était passé et l'avons envoyé à Christian Dubé, ministre de la Santé. Une semaine plus tard, la commissaire aux plaintes du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, Alexandrine Côté, nous contactait. Puis, à la suite de plusieurs échanges de courriels, des membres de l'équipe de défense des droits de Mémo Québec et M. Romero Garcia ont rencontré Mme Côté et le commissaire adjoint aux plaintes, Fabien Bessner. Cette rencontre a contribué à préciser des éléments et compléter de l'information. Ces échanges ont permis à M. Romero Garcia de confirmer le mandat d'examen de sa plainte à Mme Côté et d'ouvrir une plainte concernant le médecin qui l'a soigné. Au bout de quelques mois d'enquête, Mme Côté nous a transmis les conclusions. Elles sont excellentes pour M. Romero Garcia et lui ont mis un baume au cœur. Ce rapport est surtout excellent pour les personnes lésées médulaires qui reçoivent ou recevront des soins dans les établissements du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. La commissaire aux plaintes a fait 24 recommandations avec un échéancier dont le but est de mettre en place des mesures concrètes afin de prévenir que d'autres personnes lésées médulaires, PLM, ne vivent une expérience similaire à la vôtre. Les recommandations 1 à 9 s'applique en 2025 et en premier lieu à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et au CLSC de l'Est de Montréal. Ensuite, le CIUS devra élaborer un plan d'action afin qu'elle s'applique à tous les établissements hospitaliers et CLSC de son territoire. À titre d'exemple, parmi les 24 recommandations, nous retrouvons R6, être en mesure de repérer les PLM lors de leur séjour à l'urgence sur les unités de médecine et en service de soins à domicile d'ici le 15 septembre 2025. R8, voir est-ce que des affichettes plastifiées sur la prévention des lésions de pression chez les PLM soient diffusées dans l'ensemble des unités d'hospitalisation des centres hospitaliers, et ce, d'ici le 30 octobre 2025. R10, implanter un moyen d'identification visuelle pour la clientèle à haut risque de développer une plaie de pression, dont les blessés médulaires, dès leur triage. R11. Effectuer le suivi d'une demande de surface supplémentaire coussinée et l'obtention de celle-ci. R12. Voir, selon les résultats de recherche effectués par la Direction de l'approvisionnement et de la logistique, la possibilité d'obtenir, pour l'urgence d'HMR et HSCO Hôpital Santa Cabrini, des surfaces thérapeutiques pour les civières. R13. Prioriser l'admission de cette clientèle sur les unités de médecine lors des rencontres de coordination entre le service d'urgence et la gestion des lits. R14. Convenir avec la direction de l'approvisionnement et de la logistique d'une communication indiquant à leur personnel que les infirmières peuvent autoriser la demande d'une surface thérapeutique dès l'admission. L'examen de la plainte a abouti, entre autres, au constat selon lequel la maltraitance observée est qualifiée d'organisationnelle dans la mesure où il en résulte des actions ou d'omissions de plusieurs intervenants, et ce, même si elles n'étaient pas intentionnelles. À la lumière de cette enquête, nous réitérons qu'il est important de porter plainte parce que cela permet de défendre les droits de la personne qui pense avoir subi un préjudice. Cet article est un encouragement pour toute personne qui hésite à porter plainte. Vous êtes en situation de handicap et trouvez que vos droits n'ont pas été respectés lors d'une hospitalisation dans le réseau de la santé? N'hésitez pas à porter plainte ou à nous contacter pour obtenir de l'aide. 514-341-7272 ou info@moellepiniere.com. Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches pour préparer une plainte ou écrire à votre député dans le but de faire changer les choses. C'était « Pourquoi il est important de porter plainte », le cas de M. Arnaldo Romero Garcia, un texte d'Adèle Liliane Gombenknock, organisatrice communautaire au volet Défense des droits, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad.
Comment éviter les cauchemars? Un texte de Catherine Anfield, paru le 5 avril 2026 dans la presse. Un lecteur, Jean Pellerin, demande « Peut-on faire quelque chose pour éviter les cauchemars? Un aliment, un médicament, un exercice mental ou physique, un massage? » Cauchemar 101. Selon le DSM-5, la Bible de la psychiatrie, le cauchemar est un rêve prolongé dont on se souvient bien, qui provoque un profond sentiment de mal-être. Il aborde des thèmes menaçant la survie ou la sécurité. Il faut donc le distinguer du mauvais rêve, dont on peut se souvenir le lendemain, mais qui ne nous réveille pas, précise le psychiatre Christophe Modery, professeur adjoint à l'Université de Montréal. Lorsque les cauchemars reviennent très souvent et dérangent beaucoup la personne qui les fait, on parle alors d'un trouble, le trouble lié au cauchemar. Fonction. Les rêves remplissent probablement plusieurs fonctions. Ils permettraient notamment de consolider la mémoire et d'entraîner le cerveau à la survie. Le psychiatre Christophe Modery évoque les célèbres travaux du chercheur français Michel Jouvet. Normalement, lorsqu'on rêve, le cerveau paralyse le corps pour nous empêcher de vivre physiquement nos songes. En levant ce frein, chez le chat, Jouvet a constaté que le félin mimait des comportements de chasse en plein sommeil. Les rêves serviraient aussi à métaboliser les émotions. Un rêve dérangeant peut donc s'avérer utile, résume Maxime Loukowski, psychologue clinicien au Centre universitaire de santé McGill. C'est le cerveau qui nettoie les expériences de la semaine, résume-t-il. Trouble de stress post-traumatique. Les cauchemars deviennent problématiques lorsqu'ils créent de la détresse, une appréhension au moment du coucher, voire de l'insomnie, note le psychiatre Christophe Modery. Chez certaines personnes, ils peuvent être le signe d'un trouble de stress post-traumatique. Les événements difficiles que les gens ont vécus reviennent dans les cauchemars, résume-t-il, comme si le cerveau essaie de digérer, mais ça ne passe pas, ça revient sans cesse. Les cauchemars deviennent en quelque sorte la continuité du trouble vécu le jour et la nuit, indique le psychologue Maxime Loukowski, qui a déjà travaillé auprès de réfugiés. Problèmes de santé. Les mauvais rêves récurrents peuvent aussi trahir la présence d'autres troubles du sommeil, comme la narcolepsie ou l'apnée du sommeil. Ils peuvent aussi être liés à différents problèmes de santé, à la prise d'un médicament ou d'un supplément, dont la mélatonine, ou encore au sevrage du cannabis, indique le docteur Modery. Lorsqu'on agit, ces rêves, comme les chats dans l'expérience, ça peut être un signe précurseur de certaines maladies neurologiques. C'est donc important d'en parler à son médecin, indique le psychiatre. Ensuite, nous, on travaille sur ce qui reste, ajoute le psychologue Maxime Loukowski. Thérapie. Le traitement de référence contre les cauchemars chroniques est la thérapie par répétition d'imagerie mentale. Une fois par semaine, on rédige le scénario d'un rêve agréable. Il peut s'agir d'un rêve totalement imaginé ou de la version réinventée d'un cauchemar récurrent, transformé de manière positive. Chaque jour de la semaine, pour une période de 10 à 15 minutes, on visualise ce beau rêve en y ajoutant des détails, comme des odeurs ou des sensations. Ça permet de diminuer la fréquence des cauchemars, indique le docteur Maudry. Après avoir fait un cauchemar, on peut aussi l'écrire sur un bout de papier qu'on détruit ensuite symboliquement. Mais pas plus qu'une fois par semaine. On ne veut pas passer tout notre temps à ressasser nos cauchemars non plus, indique le psychiatre. Méditation, relaxation. Pratiquer la méditation de pleine conscience pendant la journée pourrait aussi être un allié des beaux rêves, selon Maxime Loukowski. Cela augmente les chances d'avoir des rêves lucides lorsqu'on prend conscience qu'on rêve et qu'on peut influencer le scénario de nos rêves. À l'opposé, ruminer avant de dormir peut contribuer aux cauchemars, indique par courriel Michel Carr, chercheuse en sommeil à l'Université de Montréal. Pour les prévenir, on peut donc pratiquer la relaxation physique et mentale avant d'aller au lit, dit-elle, en relaxant ses muscles et en respirant calmement et profondément. Enfin, certaines personnes rapportent que manger tard le soir contribue aussi à l'apparition de cauchemars. Médication. Pour les personnes chez qui les cauchemars ont un impact majeur, les médecins peuvent prescrire un médicament, la prazosine. Ce médicament baisse la pression artérielle, mais aussi cette suractivation du système nerveux pendant le sommeil. Ça diminue la réponse de « combat ou de fuite », résume le docteur Christophe Maudry. Mais pour éviter de prendre de la médication à long terme, la thérapie est vraiment centrale, conclut le psychiatre, qui rappelle ceci. Les cauchemars sont un bon thermostat de notre état intérieur et il est toujours sage d'écouter ces signaux que le cerveau envoie. C'était « Comment éviter les cauchemars », un texte de Catherine Anfield paru le 5 avril 2026 dans la presse.